Moi, j'ai pris l'habitude, au lieu de garder les soucis pour moi, de les porter lourdement sur mes épaules, de les partager avec le Seigneur, de l'appeler à l'aide. Mais il y a des moments où on ne peut même pas le faire avec des vrais mots. Enfin, je veux dire, là, on peut plus, on n'a même plus de mots. C'est trop lourd. Mais vous avez même le droit de le faire avec des soupirs, avec des onomatopées. Des « ah ». Bon. Mais je crois que vraiment Dieu est heureux de venir à notre secours et son nom sera glorifié. Donc encourageons-nous mutuellement à tout dire à Dieu. Maintenant, pour être plus pratique, il y a des questions que je me suis posées récemment sur la souveraineté de Dieu, sur sa puissance ou son impuissance. Et j'ai fait quelques recherches là-dessus. Et c'est aussi un des aspects de la prière qui n'était pas nouveau, mais que je n'avais jamais vu sous cet angle-là. Savez-vous que certains passages bibliques sur la prière nous disent que celle-ci devient nécessaire pour qu'il agisse. C'est plus la prière au secours, c'est celle qui dit, voilà, si vous ne priez pas, vous n'aurez pas, c'est à vous d'agir finalement, mais par la prière. Par exemple, quand vous allez dans Matthieu 9, 38, pour le nombre de moissonneurs dans la moisson, dans l'évangélisation, ça dépend de notre prière. Pour avoir des dirigeants dignes de ce nom, et vous savez qu'en France, on a un problème cette année, il y a tellement de millions de gens qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit le bord politique d'ailleurs. Mais finalement, ça fait partie des prières pour lesquelles il y a une condition. Je veux dire par là que Dieu attend que nous prions pour avoir des dirigeants dignes de ce nom. Donc si on ne prie pas pour avoir un roi, pour certains pays ça va être un roi, pour d'autres c'est un président, ou un maire dans une ville, eh ben on n'aura pas ceux qui sont dignes de ce nom. Pour les guérisons aussi. Dans Jacques 5, 16, il est dit « Priez ». Demandez aux anciens de prier pour un tel ou un tel. Pour avoir des victoires sur la tentation aussi, priez. Donc tout ça dépend des prières de nous, de nos prières. Donc elle n'est pas facultative la prière là. Elle est nécessaire. Il y aurait beaucoup de passages à propos de ça, de cette prière que Dieu demande et où il nous dit qu'elle devient nécessaire pour qu'il agisse lui. Et je trouve que c'est un peu étrange. En tout cas, on a le droit de se poser cette question. De dire, mais Seigneur, est-ce que c'est une question de ta souveraineté, de ta puissance, pourquoi est-ce que tu veux que les hommes, si faibles, si légers, si incapables, si mortels, soient obligés de prier pour que tu agisses? Et la prière, c'est quoi encore ? La prière, dans Jude 1, versets 20-21, il est dit que la prière nous construit dans la maison de Dieu. Le passage, c'est « Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte, priez avec l'aide de l'Esprit-Saint. » Donc la prière, ça participe de la construction de notre vie. Il est dit Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. D'accord, il ne construit que lui-même. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14. Il ne construit que lui-même, mais il construit quand même. C'est écrit le verbe construire. Après, il est dit, au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté tout entière. Mais pour se construire soi-même, prier en langue, c'est utile. Et Paul dit à un moment, « Je souhaite que vous parliez tous en langue inconnue, mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. » Mais il souhaite quand même qu'on parle en langue inconnue, c'est-à-dire se parler en langue. D'autre part, la prière, elle est d'accord avec Dieu et elle active la foi. Dans Jean 5, 19, Jésus reprend la parole et dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il le fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. » Donc là, c'est la prière même de Jésus. Il est d'accord avec son Père et ça active sa foi. Parce que Jésus avait aussi besoin, en tant qu'homme, quand il était, il avait une foi parfaite, mais il avait besoin de prier. Il allait prier des heures et des heures. Mais il avait besoin de ça. Il avait déjà tout. En Marc 11, 22, 23, il y a un passage qui est finalement, qui a fait l'objet d'énormément d'études. C'est un passage que vous connaissez, c'est quand, juste après que Jésus ait desséché le figuier, vous savez, il est passé un jour devant un figuier, et comme il voyait qu'il n'y avait pas de fruits et qu'il ne portait pas de fruits, c'est un arbre qui en porte plusieurs fois par an dans ces pays-là, il lui a ordonné de se dessécher, et puis quand les disciples sont repassés après le lendemain, ou sur le lendemain, l'arbre était complètement desséché, et ils lui ont fait cette remarque. Jésus a répondu quoi ? Il a répondu, dans la plupart de vos Bibles, il y a marqué « Ayez foi en Dieu ». Mais il y a une traduction que je trouve meilleure, et qui est d'ailleurs dans des versions anglaises aussi, c'est « Saisissez la fidélité de Dieu ». Ce qui veut dire, en quelque sorte, c'est une explication sur la foi. La foi, c'est d'abord de croire que Dieu est fidèle. Et donc de juste saisir cette fidélité. Mais après, il y a un passage qui est énorme. C'est un passage où, je vais vous lire cette partie, Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus, « Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu. » Donc, saisissez la fidélité de Dieu. Supposons ceci, ça c'est Jésus qui parle. Quelqu'un dit à cette montagne, « Va-t'en et jette-toi dans la mer. » Donc imaginez la scène, vous dites au grand ballon, jette-toi dans la mer. Bon, il n'y a pas de mer à côté, mais c'est quand même, c'est énorme. Je vous le dis, c'est la vérité, si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Ça a été écrit, ça. Ça a été écrit pour qui ? Pour d'autres ? Ou pour nous ? Allez, qui c'est qui pense que c'est pour nous aussi ? Oui, c'est pour nous aussi. Il y a un problème, là. Il faut donc qu'on apprenne à prier. Parce que là, il y a quand même un mystère par rapport à la prière, maintenant. Mais ce passage, il est très important. Il y a eu des énormément de choses qui ont été écrites à propos de ce passage. Et ça vaudrait vraiment le coup qu'on l'étudie de plus près. Mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. C'est de dire que la prière, elle peut provoquer des tempêtes et déplacer des montagnes. Enfin, et c'est une chose à laquelle qu'on évoque souvent ici, la prière libère l'autorité du ciel sur la terre. Également dans Marc, au chapitre 4, versets 39-40, ou même déjà 35, « Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule, et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Vous connaissez ce passage. Un vent très violent se met à souffler, les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre dans la barque. Donc c'était sur le lac de Génézareth, ou le, comment on l'appelait aussi, le lac de Galilée. Donc c'est un lac qui est assez encaissé, on l'a vu en 2011, c'est assez joli. Mais quand il y a du vent, des tempêtes sur des lacs, souvent ça peut être très dangereux parce que l'eau est... Il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi, finalement. Je veux dire, par rapport à la puissance du vent. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Il y a un petit reproche là derrière. Hein. Ça te fait rien que... Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac, « Silence, calme-toi » Alors le vent s'arrête. S'arrête de souffler, tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Et ce qui est un petit peu derrière ce passage, c'est certainement Jésus qui se disait que les disciples avaient besoin de que lui parte et que le Saint-Esprit vienne vivre en eux, pour qu'ils reçoivent cette puissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dira plus tard. Je vais vous envoyer ce paraclète, cet avocat, cette aide. Donc ça veut dire que là aussi, c'est une prière, cette... Qu'est-ce que c'est la prière? C'est aussi une manière de prendre autorité sur les choses. Et on n'a pas besoin d'avoir un intermédiaire. Le Père, Jésus, nous a donné à nous cette autorité dans la prière pour faire descendre les choses du ciel sur la terre. Donc tout ça, ça nous met dans une situation de se dire, mais ok, mais comment je fais? Alors moi, j'aurais une première piste, et c'est une première piste qu'on est en train d'explorer avec notre cellule, c'est de dire, est-ce que je pourrais prendre exemple sur toutes ces personnes qui, dans la Bible, ont été vraiment des hommes de Dieu? Et ça a un avantage énorme, c'est que c'était souvent des hommes dont on a tout raconté, c'est-à-dire que leur vie n'était pas toujours que de choses merveilleuses, il y avait des choses difficiles. Et un des personnages vraiment sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour remplir votre prière de paroles éblouissantes, et je pense qu'il va pas vous demander des droits d'auteur. Il va pas vous dire, il y a un copyright là sur les prières. Et il y a des personnes dans la Bible qui ont fait des prières étonnantes. Et vous avez parfaitement le droit de les prendre à votre compte. Je vous donne 2-3 exemples. Prenons d'abord David, et peut-être que ceux qui ont de quoi noter peuvent noter les passages, mais sinon, de toute façon, on les donnera un jour. Dans 1 Chronique 29, au verset 11 à 20, voilà ce que dit David. J'ai pris une version assez facile, c'est-à-dire dont le texte est fluide, c'est la version Parole de vie, mais dans la version... version français courant ou dans une version... voilà, il y a plusieurs versions qui sont très chouettes. Voilà ce qu'il dit. C'est vraiment une chose où vous pouvez dire à haute voix, ça c'est une version un peu ancienne, là, les mots sont un petit peu des mots un peu grandiloquents. Je vais vous le dire dans la version Parole de vie. À toi, Seigneur, la force et la puissance, l'honneur, la beauté et la grandeur. Tout est à toi, dans le ciel et sur la terre. Tu es le roi, toi qui es au-dessus de tous les êtres. La richesse et l'honneur viennent de toi. C'est toi le maître de tout. Tu possèdes la force et la puissance. Grâce à toi, tout grandit et devient fort. Vous pouvez même rajouter, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église. Et maintenant, notre Dieu, nous te disons merci et nous chantons la louange de ton nom magnifique. Je ne suis rien et mon peuple n'est rien. Nous ne sommes pas capables de t'offrir ces dons. Oui, tout vient de toi et nous t'offrons seulement ce que tu nous as donné. Nous sommes devant toi des étrangers et des gens de passage, comme tous nos ancêtres. Notre vie sur terre est comme l'ombre qui disparaît tout à coup. Et je saute le verset suivant et je dirai plus loin. Mon Dieu, je le sais, tu examines le fond du cœur et tu aimes ce qui est droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple rassemblé ici, agir de la même façon, etc. Vous pouvez parfaitement prendre un certain nombre de passages qui sont un certain nombre de versets. Vous avez des moyens aujourd'hui avec vos ordinateurs de faire un copier-coller, de mettre ça sur une page et de l'utiliser dans votre prière à haute voix. Parce que ça, c'est une caractéristique de la prière, c'est que les paroles qui sortent de votre bouche, il faut en faire une réalité. Pas juste rêver. Vous dites ces choses à haute voix et vous avez en face, vous savez, dans le monde invisible, des puissances qui vont trembler face à ces paroles, parce que ce sont les paroles de louange, ce sont des paroles qui exaltent notre Dieu. Et David nous a donné énormément de prières. Ça, c'est une prière qu'il a faite juste avant de décéder, quand il était devant le peuple et qu'il avait donné, préparé tout pour le temple, et qu'il intronisait finalement son fils Salomon pour devenir roi. Donc si on prend des psaumes, il y a des psaumes qui parlent de votre propre vie. Si je prends le psaume 139, dans une version français courant, ou une version parole de vie, voilà ce que ça donne. C'est aussi une prière que vous pouvez faire. Seigneur, tu me connais parfaitement. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Pour tous ceux qui vont partir loin, pour tous ceux qui ont des choses difficiles à faire, qui vont se retrouver seuls, etc. Ce psaume, il est incroyable. Incroyable. Pour moi, je l'ai déjà dit des centaines de fois. Imaginez, il y a deux choses que vous faites en priant ça. C'est que vous vous appropriez la parole de Dieu, c'est qu'elle va vous édifier. Et elle va remplacer des pensées que vous avez en vous qui ne sont pas les pensées justes. Au verset 11, je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière. Et la nuit est claire comme le jour. Et vous voyez, dans un moment où vous êtes vraiment pas bien et où tout est obscur autour de vous, vous pouvez très bien dire juste ces versets-là. Les retenir par cœur au bout d'un moment et dire, Seigneur, pour toi, même l'obscurité est lumière et la nuit est claire comme le jour. C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Waouh. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Vous voyez cette reconnaissance qu'on peut avoir par rapport à qui on est, elle est en plein dans ce psaume. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant aucun n'avait encore commencé. Etc. Tout Toujours dans les psaumes, il y a un psaume qui peut nous servir beaucoup. On a déjà cité ici. C'est le psaume 103. C'est David aussi qui dit « L'amour du Seigneur est immense. Je veux remercier le Seigneur. Je veux remercier le Dieu Saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse. Et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Il a découvert... Voilà. Jusque-là, rien que ça, c'est une manière de le louer pour notre santé, pour tout ce qu'il fait pour nous qu'on ne voit pas. Il dit plus loin, il ne fait pas sans arrêt des reproches, sa colère ne dure pas toujours, il ne tient pas compte de nos péchés, il ne nous punit pas comme nous le méritons. Quelle déclaration de foi! Pour édifier votre foi, en prononçant ces paroles qui sont des paroles de la Bible, elles s'adressent à nous tous, parce que David était un homme comme nous. C'était un être humain. Et David, je ne sais pas si aujourd'hui, dans notre assemblée, quelqu'un qui... pas quelqu'un qui s'appellerait David, n'est-ce pas, David, mais quelqu'un qui aurait fait ce qu'il a fait, est-ce qu'on trouverait que moralement, ça serait juste? Si c'était au niveau national, je pense que les médias seraient déchaînés là. Parce qu'en tant que roi, ce qu'il a fait, bon... Et pourtant, c'était quelqu'un que le Seigneur appréciait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a toujours, il s'est toujours repenti, qu'il a toujours reconnu ce qu'il avait fait, et il a obtenu le pardon. Donc, on en était à David. Maintenant, il y a des prières faites dans le Nouveau Testament par Paul. Certaines prières sont tellement d'une beauté incroyable, et que vous pouvez aussi utiliser. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 à 7, voilà ce que dit Paul. « Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. » Alors là, je vais tout de suite vous dire, moi, je ne vais pas prier comme ça, je vais dire... Je rends gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Tu nous donnes du courage dans toutes nos souffrances. Tu me rends capable d'encourager tous ceux qui souffrent. Et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Voilà une prière aussi qui est intéressante. Dans Éphésiens, au chapitre 1, voilà ce qu'il dit. « Dans le Christ, Dieu réalise son projet de salut. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. » Voilà une affirmation, vous n'avez pas besoin de l'inventer. Elle est en toutes lettres. Même dans la version, je crois que c'est une version seconde ça. Ah c'est la seconde, ah, c'est quand même plus récent, c'est bien. Voilà, oui. Oui, vraiment, là, il y a des choses vraiment qui sont à prendre et à utiliser jour après jour. Là, on reste dans deux types de prières. C'est la prière de reconnaissance, la déclaration de foi, la prière qui consiste à proclamer ce qu'est Dieu, son identité. Mais je vais vous donner d'autres pistes, et des pistes qui peuvent être des fois surprenantes. Mais avant, une dernière petite prière qui est prise dans un personnage biblique très intéressant, il y en aurait d'autres, hein, mais on n'aura pas le temps, c'est Anne. Anne, c'est cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui va un jour au temple et qui priait tous les ans. Et à un moment donné, le prêtre Élie commence à trouver que, comme elle parlait sans faire de bruit, il pensait qu'elle était saoule, qu'elle avait bu, et il l'a réprimandée. Puis elle lui a dit, non, mais je n'ai pas bu. Simplement, je suis tellement triste. Je n'arrive pas à avoir d'enfant. Et dans ce temps-là, quand on n'avait pas une femme, était stérile, c'était quelque chose d'assez terrible. Et donc, voilà, Anne, vous pourrez lire l'histoire dans la Bible, c'est dans 1 Samuel 2. À un moment donné, 1 et 2, hein, donc 1 Samuel 1 et 2. Voilà ce qu'elle dit quand, enfin, le Seigneur a exaucé sa prière, sa demande pour avoir un fils. Anne pria en disant, « Grâce au Seigneur, mon cœur est plein de joie. Grâce au Seigneur, je relève la tête. Je peux rire de mes ennemis. Le Seigneur m'a sauvé, je suis dans la joie. Le Seigneur est seul et saint. Personne ne nous protège comme notre Dieu, notre solide rocher. À part toi, Seigneur, il n'y a pas de Dieu. » Vous qui parlez avec orgueil, arrêtez, ne lancez plus de paroles méprisantes, car le Seigneur est un Dieu qui sait tout, qui juge les actions humaines. L'arc des courageux combattants se brise, mais les gens faibles retrouvent des forces. Ceux qui ne manquaient de rien cherchent du travail pour manger, mais ceux qui avaient faim n'ont plus besoin de travailler, etc., etc. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. C'est tout sur la souveraineté de Dieu, sur la louange par rapport à un Dieu qui connaît tout le monde et qui s'occupe de tout le monde. Voilà, donc dans Anne aussi, vous pouvez être inspiré et reprendre des passages qui vous intéressent. Maintenant, il y a une autre manière aussi de prier, c'est de prier avec les noms de Dieu. Est-ce que vous savez comment on prie avec les différents noms de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a un nombre incroyable de noms qui sont souvent des attributs du Seigneur et qui permettent de le louer? Alors, je vais vous en donner quelques-uns et vous pourrez aussi avoir une liste des références. Là, j'en ai 15 ou 16, mais il y en a plus. Prenons le premier qui est dans tout au début de Genèse, c'est Elohim. C'est Dieu, créateur, puissant et fort. Donc la première chose qui est dite dans la Genèse, au début de la Bible, c'est que celui qui a créé le monde s'appelle Elohim. Ce qui veut dire, donc, en hébreu, c'est un Dieu créateur, puissant et fort. Dans la Genèse également, et dans un psaume, dans le psaume 132, on parle du Dieu Tout-Puissant qui se dit El Shaddai. Donc on peut utiliser à la fois le nom en hébreu, puis le dire ensuite en français, et dire El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis. Parce que tu es Tout-Puissant, parce que dans ma famille, ma fille qui vit en Italie, elle a deux petits-enfants, et elle prie tous les jours avec un autre nom de Dieu. Parce que les enfants aussi sont sensibles à ça, à cette découverte. Il a un nom. Et je vais vous donner quelques-uns qui sont très intéressants. Par exemple, l'Éternel pourvoira, dans Genèse 22, 14, Yahvé Jiré. C'est le nom qu'Abraham donna au lieu où Dieu a pourvu pour le bélier pour être sacrifié à la place d'Isaac. L'Éternel qui pourvoit. Quel beau nom. Donc pour vos prières, vous pouvez tisser autour de ça plein de choses pour dire, Seigneur, tu es vraiment un Dieu formidable. Tu es celui qui pourvoit. Et je proclame dans ma vie que tu es celui qui pourvoira. Comme tu as pourvu pour remplacer Isaac par un bélier. Il y a aussi Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est dans Exode 15 au verset 26. Il est dit, je suis l'Éternel qui te guérit, à la fois le corps et l'âme. le corps en préservant des maladies et en les guérissant, et l'âme en pardonnant les iniquités. Et vous avez vu dans le psaume 103 aussi, on parle de celui qui guérit de toutes nos, qui nous guérit toutes nos maladies. Ça ne veut pas dire qu'il va toutes les guérir, mais qu'il est capable de les guérir toutes en fonction de sa souveraineté. Il y a aussi Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, dans Exode 17:15. La bannière, elle représente un endroit de ralliement. Ce nom commémore la victoire dans le désert contre les Amalécites en Exode 17. On dit aussi que ce nom, il a plutôt le sens en hébreu de signal. C'est-à-dire, c'est comme un endroit qu'on voit de loin et qui permet le ralliement. D'accord? Il y a aussi Yahvé Tzidkenu, c'est un de mes préférés, parce que c'est dans Jérémie 33:16. Ça, c'est l'Éternel, notre justice. Ça veut dire qu'il est le Dieu qui seul pourvoit la justice à l'homme. Dans la Bible, il est souvent dit « À moi la vengeance ». C'est ce que Dieu dit. « Laissez-moi la vengeance. Ne vous vengez pas vous. Pardonnez-vous. » Il y a aussi Yahvé Roï, l'Éternel, notre berger. C'est dans le psaume 23. Il y a aussi Yahvé Mechadesh, l'Éternel qui te sanctifie, celui qui rend saint. C'est dans Lévitique 20, verset 8, et aussi en Ézéchiel 37, 28. Dans des Bibles, évidemment, qui sont des Bibles dont le langage est plus courant, on n'utilisera pas certains mots. Mais si vous voulez, vous pouvez reprendre toujours en parallèle, consulter dans une Bible plus littérale, qui est un peu plus difficile à lire, mais dans laquelle vous retrouverez une traduction plus fidèle, enfin pas plus fidèle, mais disons une traduction plus exacte. Mais tout ça, ça peut se vérifier, évidemment. C'est pas quelque chose que qui est approximatif. C'est vraiment ce qui est dit. C'est l'attribut de Dieu. Il y en a d'autres. Il y a Yahvé Shama, l'Éternel est ici. C'est le nom donné à Jérusalem et à son temple, indiquant que la gloire de l'Éternel qu'il avait quitté dans le passé était revenue. Ézéchiel 44, 1 à 4. Ézéchiel 48, 35. Il y a Yahvé Sabaoth, qu'on appelle, vous l'avez souvent entendu, l'Éternel des armées. C'est dérivé, l'Éternel des armées, Seigneur des hôtes célestes et des habitants de la terre, juifs et gentils, riches et pauvres, maîtres et esclaves. Ce nom exprime la majesté, la puissance et l'autorité de Dieu et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé de faire. Etc., etc. Donc vous en avez au moins, j'en ai au moins 16 sur ma liste. Et c'est vraiment une source aussi de prière, pour que vos prières soient alimentées par toute l'imagination derrière ces textes. Et enfin, et c'est de loin pas exhaustif, tellement c'est riche, prier, c'est aussi s'approprier toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez collectionner toutes les promesses de Dieu pour votre vie et les utiliser dans vos prières. Voilà les dernières que j'ai utilisées parce que c'est des textes que j'utilise fréquemment. En Apocalypse 21:5, il est dit « Donc celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, c'est Jésus, donc maintenant je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Puis il ajoute « Écris ces paroles sont sûres et vraies. » Et il me dit, maintenant c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et écoutez bien, celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Vous pouvez dire ça aussi dans vos prières. C'est une façon de dire, de vous approprier. Voilà un mot-clé. La prière, c'est aussi une manière, en disant la parole, en répétant les promesses de Dieu, c'est une manière de s'approprier ces promesses. Parce qu'on a besoin de ces approprier. Les promesses qui sont dans la Bible, si on ne va pas les chercher, ben quelque part, on ne se les approprie pas. On reste peut-être libre, mais d'une liberté qui est quand même un peu légère, quoi. Là, il faut s'approprier ces promesses. Elles n'ont pas été faites pour personne. Elles sont faites pour vous et pour nous. Si j'ai soif, je peux dire, Seigneur, j'ai soif. Et tu as dit que tu me donnerais à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Je la veux. Autre passage où on peut s'approprier une promesse, c'est dans... Oh mince, là, j'ai pas le passage. C'est un passage où il est dit, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Le Seigneur dit, les chenilles et les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Il va nous restituer ce qui a été volé. Vous mangerez à votre faim et vous chanterez ma louange. Moi, le Seigneur, votre Dieu, je fais pour vous des actions magnifiques. Vous ne serez plus couverts de honte. Et alors vous comprendrez ceci, je suis présent au milieu de vous, je suis le Seigneur votre Dieu et il n'y en a pas d'autre. Dans 2 Corinthiens 5, 16 à 21, il y a aussi une promesse. C'est une promesse très connue parce que ça fait vraiment partie, je dirais, des versets de base. C'est Paul qui dit, c'est pourquoi maintenant nous ne connaissons plus personne d'une façon humaine. Si nous avons connu le Christ de cette façon, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Et vous pouvez dire dans vos prières, si vous en doutez à un moment ou à un autre, si vous doutez de votre salut, si vous doutez que le Seigneur vous a donné une nouvelle nature, vous pouvez dire, je suis uni à toi. J'ai été créé à nouveau, ce qui est ancien est fini. Parce que l'ennemi va toujours revenir sur ce qui est ancien et vous reprocher des choses qui datent de je ne sais pas quand. Et vous dire, oui, mais toi, il y a tout ça que tu as fait dans le passé. Et là, vous avez vraiment la vérité. La vérité, c'est que si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Dans Jérémie 30, 12, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. » Jésus connaît nos souffrances, même celles de notre enfance. Et même si les années ont passé et que vous avez tout fait pour les enfuir au plus profond de vous, votre Père Céleste veut appliquer son baume sur votre cœur et vous guérir. Ça, c'est la vérité. Le Seigneur veut vraiment... Il sait que vous avez eu des plaies, que vous avez eu des plaies. Quelles plaies vous avez eues ? Même si vous avez réussi avec les années à mettre vraiment dessus... Beaucoup de choses qui l'empêchent qu'on le voit. Mais lui le sait. Et il est là pour nous guérir de ça aussi. Voilà. Alors moi j'aimerais juste que quelques-uns me disent qu'est-ce qu'ils pensent de la prière aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur prière? On est dans un petit comité là. On est juste entre nous. On est quelques-uns. Pour ceux qui veulent témoigner sur la prière, ça serait peut-être le moment de dire si... Voilà un mot.
Bonsoir tout le monde. J'aime beaucoup ce sujet de la prière parce que je trouve que c'est tellement... Tellement... On ne peut pas s'en passer. Je ne sais plus le mot. Indispensable, voilà. Et particulièrement en ce moment, je me rends compte de quand on est dans des temps difficiles et comme pour moi c'était un peu chaud au boulot, Ben, chaque matin, genre, j'étais obligée de... Enfin, je m'en suis rendu compte, enfin, de toute façon, c'est bien de pouvoir chaque matin prendre ce temps dans la prière avec Dieu, mais ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est que c'est comme la manne, ça... enfin, c'est pas que ça périt, mais genre, un moment, j'avais prié à fond, j'ai dit, Seigneur, enfin, c'est horrible, aide-moi au boulot, merci parce que tu vis en moi, enfin, voilà, je te prie pour la paix, que tout se passe bien, et tout ça, et puis ma journée, ça s'était bien passé, génial, et le lendemain, j'avais pris un petit peu moins de temps pour prier, je dis, bon, enfin, ça s'est bien passé, ça va bien se passer, et puis là, de nouveau, non, c'était galère, tout ça, je dis, ok, donc il faut chaque jour prier à nouveau et redemander enfin voilà la présence de Dieu et tout ça et finalement enfin bon c'est une super habitude à prendre et j'avais juste un témoignage c'était ce matin je me lève et j'avais je sais pas je commence à prier et puis j'étais là en fait j'ai pas envie de prier enfin j'ai pas les mots qui viennent j'avais pas parfois je prie juste dans ma tête enfin je dis pas les mots. Je me dis, de toute façon, Dieu, il connaît tout, voilà. Mais je sais que c'est important aussi de dire les choses à voix haute ou bref. Donc je me dis, ben, je vais commencer à prendre la parole. Donc j'ai pris un psaume et j'ai commencé à le dire à voix haute. Et puis après, j'ai pris un autre passage, justement, les prières de Paul. Et c'est vrai que c'est, même les dire à voix haute, enfin, c'est tellement puissant. Et après, ben, le reste, il venait tout seul, que ce soit, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait ou prier. Enfin, j'ai plusieurs personnes à cœur ou des sujets à cœur. Dans mes prières le matin, comme plusieurs choses. Et donc c'est pour ça que ça me parle énormément de prier avec la parole de Dieu. Et puis aussi, comme quoi la prière est vraiment efficace. Enfin, chaque jour se remettre devant Dieu, devant la prière, que ce soit dans la reconnaissance, ça nous remplit de joie, ou alors d'étaler tout nos tracas, nos soucis, nos pensées, tout ce qu'on peut pas dire peut-être à d'autres personnes parce qu'on n'a pas envie de les accabler de problèmes. Et enfin, c'est juste génial, de pouvoir tout dire à Dieu et qu'il écoute. Et je voulais juste partager ça.
Quelqu'un d'autre, préparez-vous.
Bon, pour moi, c'est un peu le même thème, c'est la parole de Dieu. Et deux choses pratiques. Une chose, emmagasiner plusieurs psaumes. Donc, c'est-à-dire mémoriser-les pour qu'ils puissent t'aider tout au long de ta vie. 5-6 psaumes comme le 139, comme le 84, 23, 27, et comme ça, tu 37, voilà. On se nourrit de ça dans les moments où il n'y a rien. Par exemple, tu es dans ton lit, ça, c'est le moment parfait de remuer les choses dans ta tête intentionnellement, parce que sinon il va y avoir des choses dans ta tête qui viennent de n'importe où et tu vas tourner en rond comme ça. L'autre truc, c'est comme disait Elisabeth, vraiment la parole de Dieu à haute voix. Je suis très dans mon propre intérieur, je suis très introverti, moi je peux faire tout dans ma tête, mais il y a moins de profit si tu te gardes le silence. Et une façon de faire pour que tu prennes le moelle de chaque mot, de chaque phrase, c'est de commencer à écrire. Donc tu prends un truc sur YouTube de musique calme et tout ça, et pendant une heure, tu prends 3-4 versets qui parlent de quelque chose que tu as choisi. Par exemple, maintenant, moi, je me focalise sur Jésus. Donc, je prends les versets dans la Bible entière qui parlent de Jésus. Et il y en a, bien sûr. Et je prends, mais pas des gros morceaux, des petits morceaux. Par exemple, il y a Ésaïe 53, tout le chapitre, c'est par rapport à Jésus. Mais tu prends 3 versets et tu commences à écrire ça pendant une heure. Et tu prends les petites parties et tu le repris à Dieu. Donc tu prends ces parties et tu les convertis en prière. Et comme ça, tu commences à avoir un dialogue. Et la parole t'aide à avoir un vocabulaire. Parce qu'on manque de vocabulaire à parler avec Dieu. Il parle avec un vocabulaire qui est bien au-delà de la nôtre. Et comme ça, ça nous aide à continuer. Autrement, en tournant rond de nouveau, on reprend les phrases qui sont habituelles et tout ça. Donc pour moi, ça m'aide beaucoup. Ça me ralentit pour que je puisse penser différemment. Donc voilà.
Merci David. Et je peux vous livrer juste un passage qui me revient là et que j'ai utilisé récemment. C'était dans Ésaïe 43. J'ai d'ailleurs, j'avais oublié où était même le passage parce que je l'avais appris par cœur et puis je me suis dit mais il faudrait quand même que je sache encore où il est. C'est un passage qui va vraiment, qui peut toucher. Moi, il m'a touché profondément. C'était le passage de Ésaïe 43. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et moi, j'ai inversé les choses et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être effrayé, car tu m'as délivré, tu m'as appelé par mon nom. Je suis à toi. Quand je passerai par les eaux, tu seras avec moi. Quand je traverserai des fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marcherai dans le feu, il ne me fera pas de mal. Et je ne serai pas brûlé. Parce que toi, l'Éternel, tu es mon Dieu. Et il est dit plus loin, et je reviens au texte pur, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba en échange de toi. Vous imaginez? C'est ce que Dieu a dit à son peuple. Et on fait partie de quoi, nous? De son peuple. Alors, il y a aussi un passage qui m'a, il y a moins d'un an, là, qui m'a aussi beaucoup étonné. C'est dans un psaume, le psaume 35, il y a David. Il faut savoir le contexte de ce psaume, c'est que David était complètement rejeté par tout le monde. Mais par tout le monde. Et il commençait à être vraiment déprimé. Parce que ni ses amis, ni ses ennemis, ni son roi n'étaient pour lui et le rejetaient complètement. Même ses compagnons, puisqu'il était un peu dans le maquis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était obligé de fuir le roi, même ses compagnons en voulaient à sa vie. Et à un moment donné, dans ce psaume, il a dit quelque chose d'étonnant. Donc il était complètement déprimé. Vous voyez qu'il disait des choses vraiment déprimantes. Donc je lis le psaume 35, c'est au verset 3, je crois. Qui commence vraiment, il dit, « Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combat toi-même qui me combat. Saisis le bouclier, revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. » Il suppliait Dieu de se lever pour le secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Et là, il y a une petite phrase qui est toute marrante qui dit, dis-moi que tu es mon sauveur. Vous vous rendez compte? Le grand David qui dit, dis-moi que tu es mon sauveur. Il avait envie que Dieu lui dise, mais ça, c'est une chose que vous pouvez dire à Dieu. Redis-moi, je suis vraiment dans la panade, là, je suis dans le brouillard. Dis-moi que tu es mon sauveur. Dis à mon âme que tu es son sauveur. C'est pas beau? Et alors, je sais pas comment vous êtes, mais de temps en temps, moi, quand des gens sont méchants et puis qu'ils sont quand même, ils ont l'air d'être vraiment bien dans leur peau et que tout marche pour eux, il y a aussi un psaume pour ce cas-là. Vous connaissez le psaume 73? Quand vous râlez contre tous ceux qui sont méchants et qui réussissent? Non. Alors c'est le psaume 73, je ne vais pas le dire, mais voilà. Là, vous avez vraiment des choses étonnantes pour râler contre ceux. Et puis à la fin, bien sûr, Dieu, il rappelle David à l'ordre et lui dit, « Bon, écoute, de toute façon, je m'en occuperai un jour des méchants. » Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Ce qu'on a dit ce soir, c'est vraiment important. C'est très important que vous appreniez à prier. Et pour cela, vous avez des moyens. C'est d'utiliser la parole. Et n'hésitez pas, Si vous ne savez pas où commencer, où trouver, on vous donnera des pistes. Parce que je crois que c'est ça qu'on doit faire aussi. On doit vous donner des pistes avec des explications. Ça va tenir en 5-6 pages. Et vous pourrez vraiment progresser. Parce qu'il y a quelque chose qui est dit en Romains 12, au verset 1 et 2. Parce que non seulement vous allez prier et apprendre à prier,
parce qu'il est dit au passage, c'est la même version,
ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer, c'est ça qui est important, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, si j'inverse les choses, enfin si je les mets dans l'autre sens, que la condition pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, c'est d'être renouvelé. Et comment vous êtes renouvelé? Avec la parole de Dieu. Donc quand vous utilisez la parole de Dieu pour prier, c'est aussi au passage, comme disait David, si vous apprenez des passages, si vous apprenez certains psaumes, c'est une manière aussi d'être, de remplacer les pensées, vos pensées qui ne viennent pas de Dieu des fois, par les pensées de Dieu. Et dans le verbe qui est utilisé là, c'est un verbe qui en grec d'ailleurs a donné le même mot en français presque, c'est métamorphose. Donc ça crée, c'est un mot un peu compliqué pour mettre dans un texte comme le Semeur parce que c'est une version assez fluide, c'est laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, c'est-à-dire en fait laissez-vous métamorphoser. D'accord? Pour savoir ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, soyez renouvelés. Et pour cela, la parole de Dieu, elle est faite pour ça. Donc ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent l'écouter. Ça existe aussi en version audio. Bon, c'est peut-être moins pratique, je sais pas, mais bon. Moi, je la lis même dans d'autres langues, en allemand, voire en anglais, parce que ça permet d'avoir un autre regard et pas de tomber dans les ornières des mots. Vous savez, les mots qu'on comprend. Enfin, on les comprend, mais ils ont plus un sens vraiment. Aigu. Voilà. Merci et bonne prière. On fera une interro écrite dans 6 mois. Vous êtes d'accord? Non, mais ça serait bon qu'il y ait un témoignage dans quelques mois et ceux qui étaient là ce soir qui puissent dire oui, j'ai commencé à prier autrement. Je crois vraiment que c'était pour vous ce soir. Soyez bénis. Il est temps qu'on se sépare maintenant. Mais on va terminer peut-être par une prière. Est-ce que l'un ou l'autre veut prier aussi avec moi? Oui? Viens. Et Mitya aussi. Viens Mitya. Si, t'as le droit de prier aussi.
Oui, merci papa pour ta parole, merci. Parce que tu es la parole et ta parole est vivante. Et pour cette capacité de ta parole de nous transformer, c'est juste, c'est merveilleux. Merci pour ta parole, merci pour la prière, merci Jésus d'être venu pour qu'on puisse avoir cette conversation tout le temps, on continue avec toi. Il n'y a plus de séparation. Et tu nous entends. Et même dans nos propres paroles et parler en langue, que tu nous équipes et simplement tu veux entendre notre cœur et avoir une conversation et aide-nous aussi à être tranquille pour écouter et donne-nous la capacité de mieux entendre ta voix, de te connaître comme ça en intimité et parce qu'une conversation, c'est parler, mais c'est aussi écouter et entendre. Donc, aide-nous à développer les deux côtés. Comment bien s'exprimer et comment bien entendre, comprendre ta voix, ton cœur, ta parole. Amen.
Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci.